Alors bonjour, alors,
salut.
Ton prénom déjà, c'est
Clément.
Clément. La première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi ce nom, The Brums, du coup?
Ah, c'est simple, c'est la contraction de brass, qui veut dire cuivre, et drums, qui veut dire batterie, tout
d'accord.
Simplement.
Ok. Et comment ça s'est passé, la rencontre de toute la formation, et quelle est l'histoire de la création du groupe?
Alors Liège, donc on vient de Liège, hein. C'est une ville en Belgique qui est assez petite, et on se connaît tous. Donc on se connaît depuis très longtemps, en fait. Puis un jour, on s'est dit, tiens, on va faire un brass band, un mini brass band, parce que pour aller sur les routes, c'est quand même mieux de pas être à 15. Donc on a commencé à 4, et puis on s'est dit, c'est bien, mais on aimerait bien un truc un peu plus puissant, un peu plus péchu, un peu plus actuel aussi. Donc on a rajouté des synthés dans notre musique, et on voulait aussi proposer autre chose qu'une musique classique de brass band, comme le brass band américain, comme Hot 8, tout ça. C'était pas notre cam, on avait envie d'aller vers d'autres choses, vers la musique électronique, basiquement, en fait.
Voilà. Bah, justement, ça répond un peu à la question de comment est-ce qu'on peut qualifier votre musique, finalement. Donc, c'est un...
Oui, c'est ça. Donc, un mélange de jazz, brass et de musique électronique.
D'accord.
Et alors, j'insiste toujours, quand je parle de jazz, nous, ce qu'on aime, c'est plutôt... du jazz qui vient du fond des tribes, genre des musiciens comme Archie Shepp ou Coltrane, donc des gens qui vont loin en fait dans le cri intérieur.
Et comment ça se passe concrètement lorsque vous travaillez ensemble, lorsque vous composez? Est-ce que c'est il y en a un qui propose des idées, les autres qui suivent? Vous faites un brainstorming? Comment ça se passe?
Alors on compose à deux, Alain Deval qui joue la batterie et moi-même. Et on amène des maquettes faites sur Ableton et on dispatche un petit peu les voix, on joue, ça va très vite en fait pour la première mouture et puis on adapte en fonction de comment on se sent en répète, en live. Il y a des passages qu'on aime, il y a des passages qu'on vire carrément parfois parce que ça marche pas super. Voilà, c'est la différence entre faire une démo chez soi tranquille et le défendre sur scène en groupe, avec chacun son son, chacun son individualité.
Et justement, il y a une différence entre la musique que vous jouez en studio et la musique que vous jouez sur scène?
Pas vraiment, parce qu'on enregistre live.
D'accord.
Donc vraiment tous ensemble, presque dans une même pièce. On avait mis Alain dans une autre pièce. Donc non, on est vraiment dans le même état d'esprit, sur l'énergie, sur l'instant. Et donc là, je reviens sur le côté jazz aussi. Il y a quelque chose qu'on aime bien, nous, c'est de réinterpréter tout le temps notre musique, de la sentir sur le moment. Ça, c'est un aspect qui est plutôt jazz, finalement. D'accord.
Donc, j'imagine qu'il y a forcément une part aussi d'improvisation, quelque part,
oui.
sur scène.
Oui, évidemment, il y a des parties qu'on rallonge, qu'on raccourcit. Aussi, on aime bien qu'il y ait des sortes de couplets instrumentaux. Il y a un instrument qui prend le dessus. Et je dis couplet pour pas dire solo, parce que c'est pas vraiment, vraiment ça. Et donc ces parties-là sont en général improvisées par celui qui prend le lead à ce moment-là.
Et ça se fait vraiment sur le moment, sur l'intuition?
Ouais, sur le moment.
Il y a des regards,
Il y a des regards, il y a des cues pour rentrer, donc des signes pour rentrer, des signes pour sortir. Mais ça peut arriver qu'une partie se double en live quand on voit que les gens accrochent bien. Que nous, on est vraiment dedans, que ça a une partie qui nous réveille bien, on n'hésite pas à un peu traîner dessus.
Et ce rapport avec le public, alors, il est comment? Est-ce que eux aussi, est-ce que c'est des simples spectateurs ou est-ce qu'ils peuvent aussi prendre part quelque part?
Ils peuvent prendre part, justement, comme je te disais, si on voit que les gens sautent, crient et tout ça, on a envie de rester sur une partie, de donner quelque chose de différent. Moi, personnellement, quand je prends un couplet, comme j'expliquais tout à l'heure, j'adapte fort en fonction de l'énergie du moment. Si je vois que les gens sont plus en train d'écouter, je vais plus jouer quelque chose de mélodique. Et si je sens que les gens ont besoin de faire la fête, je vais jouer plus rythmique. On s'adapte.
Et puis ça offre la possibilité d'être sur plusieurs tableaux en même temps, ce côté jazz qui permet d'aller vers un public vraiment un peu plus initié au jazz et un autre plus ce qu'on appellerait musique actuelle avec ce côté électronique. Je trouve que ça fait partie d'une scène émergente déjà depuis quelques années, qui vient du jazz, qui est en train de rafraîchir tout ça, qui a digéré plein d'autres styles différents à côté des styles électroniques. On peut penser, je sais pas, à Bad Bad Not Good au Canada. Moi, vous me faites penser à la fusion de deux groupes.
Oui.
Vraiment le lien entre The Comet Is Coming, un groupe anglais justement qui apporte cette dose de clavier à leur composition, et au brass band Meut, aux Allemands de Meut, ouais, justement, qui reprennent ce côté techno. Mmh. Est-ce que là, à force de travailler dans cette énergie-là, vous avez un ascendant électronique qui prend un peu plus le dessus sur le jazz de base ?
Oui, tout à fait. En fait, de plus en plus, les synthés prennent de la place au niveau du son, au niveau de la conception aussi d'un morceau. On se dit, là, ça doit évoluer plus, faire des morceaux qui sont plus dans le son de synthé, de la variété des sons. Oui.
Puis la section cuivre aussi est augmentée par des pédales d'effet qui accompagnent, qui donnent de l'ampleur à ce son.
C'est ça. Et on est un peu divisé en deux, tous, parce que comme tu dis, il y a des pédales. Moi, personnellement, je joue du sax et du synthé, parfois les deux en même temps. Le trompettiste en face de moi, pareil, plus gérer les pédales et tout ça. Donc...
On ne voit pas derrière le transistor, mais il y a 8 bras. Voilà
c'est ça.
On va jouer tout en même temps.
Alors, le projet en cours, alors je ne retrouve plus mes notes, le projet en cours, comment ça s'appelle-t-il ?
Le projet en cours, on vient de sortir un album, c'est une période un peu particulière, donc je viens de sortir, mais cet album-là, il est prêt depuis plus d'un an et demi, qui s'appelle No Encore, l'album. No Encore, ça veut dire pas de rappel, parce qu'on aime bien les concerts concis, les albums concis. Il dure 37 minutes tout mouillé, notre disque. Donc on aime bien ce côté un peu direct, frontal. Et on a travaillé cette fois-ci avec... Enfin, je dis cette fois-ci, mais c'est quand même c'est notre premier album, parce qu'avant, c'était juste une démo. On a travaillé avec un producteur norvégien qui vient de Jagga Jazzist. Donc, c'est le guitariste de Jagga Jazzist qui s'appelle Marcus Forsgren. Voilà, c'était pendant le confinement. En fait, on a travaillé, on s'est envoyé on lui a envoyé les morceaux, il les a mixés, il a fait un petit travail de production.
C'est une belle référence dans ce domaine-là.
Grosse influence pour nous, évidemment. On ne peut pas vraiment passer à côté.
Et alors, justement, tu as abordé le thème du confinement. Vous l'avez vécu comment, vous, le confinement ?
Comme je disais, notre disque était presque prêt au début du confinement. Donc, on l'a un peu vécu comme une pause.
Pas comme une frustration de ne pas pouvoir, justement, défendre auprès du public.
J'irai quand même pas jusque-là, mais ça a bousculé un peu les choses quand même. Pas mal, parce que là, par exemple, on a l'impression que cet album vient de sortir, mais ça fait longtemps qu'il est dans nos têtes, mais qu'on le joue. On a déjà envie de passer à autre chose. Et
Je pense comme la plupart des artistes qui passent aujourd'hui Rocomotive, qui un album qui sort alors que ça fait déjà un moment donné qu'ils sont dans les bacs. Alors justement, les Rocomotive, c'est votre première fois ? Vous étiez déjà venu ?
J'avais entendu vaguement parler du festival, mais sans plus.
Donc, la découverte de la ville de Vendôme, vous avez eu le temps de visiter un
petit peu ? Oui, on a visité aujourd'hui, on a vu les églises, les petits canaux, très sympa, très chouette.
Et Angers, je crois, cette semaine ?
Alors Angers, c'est après-demain.
Ok.
Et demain, on joue à la ZAD de Nantes. Voilà, on a mis une tournée de 3 dates.
Ouais, tu parlais du style, de l'album que vous aviez déjà eu le temps de digérer parce que ça faisait un moment qu'il était prêt. Là, est-ce que tu as une tendance qui se dégage sur l'avenir de par les dates, justement est-ce que tu as un feeling qui commence à se créer entre les réactions du public et ce que vous avez envie de faire ?
Bah oui, on précise de plus en plus, et ça, c'est depuis le début du groupe, on a commencé en brass band. Puis on a rajouté les synthés de manière un petit peu comme ça. Et puis finalement, là, on est vraiment en train de préciser notre langage. Notre mode de fonctionnement aussi change un petit peu. Je disais qu'on produisait des démos puis qu'on les interprétait. Ça, c'est pas venu tout de suite. Ça a pris du temps. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à un mode de fonctionnement beaucoup plus rapide, plus efficace, ciblé un petit peu mieux ce qu'on a envie de produire comme musique.
Et par ailleurs, être encadré aussi, rentrer dans un label, ça aussi, ça influence pas mal. Vous êtes chez Leuk Records, pour les citer, un label où on retrouve entre autres Iti Tanita, Annabelle Lee.
Endless Dive,
oui. Et justement, vous apportez aussi une touche différente. Vous arrivez avec une fraîcheur qui, eux, viennent plutôt d'un univers rock. Vous apportez quand même une énergie différente. C'est quoi le rapport avec, avec ce label ?
En fait, ils sont venus nous chercher. Donc, on était un petit peu étonnés à la base. Et puis, on a assez vite compris qu'on avait les mêmes aspirations et qu'on avait envie de faire du bon travail tous ensemble. C'est une super équipe qui est hyper dynamique. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Je vois que tu as un pull de Titanita, donc tu connais déjà un petit peu l'ambiance. Voilà, ils nous apportent beaucoup. Ouais, vraiment.
À retrouver ce soir, hein, The Brahms. On fait un groupe poutou aussi à Alain, qui hier a clôturé du feu de Dieu la première soirée au Minotaur avec Boss Lane. Qui pour les vénards qui étaient restés jusqu'au bout ont pris une petite calotte et je pense qu'elle sera doublée voire triplée ce soir avec The Brahms en clôture du Minotaur.
Alors justement, le fait que vous soyez en clôture, est-ce que ça change quelque chose pour vous ?
On va devoir attendre longtemps. Ouais. C'est bien, on a plein de concerts à voir, donc il faut pas trop se fatiguer.
Je pense que les derniers qui vont être là, justement, c'est ceux qui vont être les plus énergiques, ouais, qui ouais. probablement vont vous donner de l'énergie.
Les survivors. Ouais.
Et bah, merci à vous.
Merci les gars.
Est-ce qu'on s'écoute un titre de The Brahms ?
Exactement, on va s'écouter un morceau de The Brahms. On parlait d'énergie. C'est un morceau qui va s'appeler Bagarre.
Ouais. On écoutait Chantal précédemment avec une très belle chorégraphie. Y a un mélange avec l'art contemporain aussi, la danse contemporaine qui marche à fond les ballons, comme on pourrait dire.
On peut peut-être rappeler l'heure du concert ce soir.
C'est 1h10, je crois.
Ouais, c'est dans ces eaux-là.
On n'a pas vraiment le droit de dire précisément. Je sais pas, il n'y a pas de programme précis avec
non, normalement, timetable. Pas trop dire.
Mais venez à l'ouverture du bar.
Ouais, c'est ça. Voilà. La fermeture du bar. Ouais.
Et tout de suite, Bagarre du groupe The Brahms.
Rocomotive 30e édition, Radio Roco sur
Radio Balistique,
Châteauroux,
103 FM,
Radio Béton,
Tours,
93.6,
Radio Campus,
Orléans,
88.3,
Radio Campus,
Tours,
99.5,
Radio Résonance,
Bourges,
96.9,
Studio ZEF,
Blois,
91.10,
et sur Radio Tintoin,
Vierzon,
radiotintoin.org. We'll be right back.